VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Nathalie Barge.
Bonsoir, au sommaire de cette édition du 26 juillet 2017. RDC, l'ONU nomme 3 experts pour enquêter sur les violences au Kasaï. Zimbabwe, les nouveaux pouvoirs judiciaires du président Robert Mugabe suscitent une levée de boucliers de l'opposition. États-Unis, la Chambre des représentants a adopté un projet de sanctions contre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Le président américain Donald Trump multiplie les attaques contre Jeff Sessions, son ministre de la Justice. L'économie et les sports, ce sera juste après le journal. Les Nations Unies ont nommé 3 experts internationaux pour mener des enquêtes sur les violences dans la région du Kasaï en RDC. Abdourahman Dia nous en dit plus.
Cette annonce intervient au terme d'un compromis avec Kinshasa qui a refusé une mission indépendante. L'équipe est composée d'un Sénégalais, d'un Canadien et d'une Mauritanienne. Ils vont enquêter sur les allégations de violation des droits de l'homme dans la région du Kasaï. Le Conseil des droits de l'homme a adopté le 22 juin une résolution de compromis avec l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne. Ces 3 entités souhaitaient une mission indépendante, mais Kinshasa, qui s'y opposait, avait obtenu le soutien des pays africains. La résolution demande à la RDC de coopérer avec les experts qui devront en retour partager leurs informations avec Kinshasa et les auteurs des crimes dans le Kasaï seront jugés par la justice congolaise. Depuis 10 mois, la région du Kasaï est secouée par des troubles qui ont fait plus de 3000 morts et 1 400 000 déplacés, d'après des chiffres rassemblés par l'Église catholique congolaise.
Les Nations Unies ont annoncé la reddition d'un chef rebelle, Cheikha Thabo Tabéry, poursuivi pour crimes contre l'humanité et viol massif avec sa milice en 2010 dans l'est de la RDC. Cheikha s'est rendu aujourd'hui à Mutongo, dans le Nord Kivu, auprès des casques bleus. Il a été transféré à Goma et dit qu'il était le seul milicien à se rendre. Annonçant une nouvelle victoire du parti présidentiel lors des élections locales du 16 juillet, Brazzaville a répondu ce mercredi à la France, qui s'était déclarée lundi préoccupée par la situation dans la région du Poul. Le gouvernement a été responsable et prudent en reportant les élections dans le Poul, a assuré le porte-parole du gouvernement Thierry Mungala. Selon lui, l'objectif est de tenir les élections dans ces circonscriptions dans les délais raisonnables. Mais pour y arriver, il faut un niveau de sécurité suffisant, a-t-il dit. 2 membres d'équipage qui se trouvaient à bord de l'hélicoptère de la mission des Nations Unies au Mali s'est écrasé dans le nord du pays. La MINUSMA a dépêché une équipe sur les lieux du crash pour déterminer le sort de l'équipage et les circonstances du drame, a précisé Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU. 8 personnes sont mortes mardi dans l'effondrement d'un immeuble de 4 étages à Lagos, au Nigeria, après de fortes pluies, a annoncé le service des situations d'urgence, indiquant qu'un corps a été sorti hier et 7 ce mercredi. 15 personnes ont été secourues. Les nouveaux pouvoirs judiciaires du président zimbabwéen suscitent une levée de boucliers. Un nouveau texte donne à Robert Mugabe la possibilité de nommer les principaux juges sans consultation. L'opposition dénonce une violation de la Constitution. Morgan Guériec nous en dit plus.
Un projet de loi adopté hier permet au chef de l'État de nommer le président de la Cour suprême et son adjoint. Une attaque contre l'État de droit s'insurge le MDC, principal parti d'opposition. Il estime que cette loi va concentrer les pouvoirs dans les mains du président, alors que les citoyens ont voté pour démocratiser le régime. Il s'agit de la première modification de la Constitution qui prévoyait que le président zimbabwéen nomme les juges suprêmes sur recommandation d'une commission. La ZANU-PF, parti du président Mugabe, peut s'appuyer sur sa large majorité au Parlement pour faire passer des lois. 182 députés sur 270 ont ainsi voté en faveur de ce changement constitutionnel.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chambre des représentants des États-Unis a adopté mardi un projet de sanctions contre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, ce qui a provoqué la colère de Moscou et l'inquiétude des Européens. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le projet comporte des sanctions contre la Russie pour l'annexion de la Crimée et des ingérences en Ukraine. La proposition des sanctions concerne aussi l'Iran, notamment les gardiens de la révolution, accusés de soutenir le terrorisme, et la Corée du Nord pour ses tirs de missiles. La proposition de loi doit être adoptée par le Sénat et validée par le président Donald Trump avant que les sanctions ne soient effectives. Si ce texte passe au Sénat, le président Donald Trump pourrait aussi mettre son veto. Malgré tout, le ministre adjoint aux affaires étrangères iranien, Abbas Agarashi, estime que cela peut influencer négativement l'application de l'accord sur le nucléaire. À Moscou, le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, met en garde contre une possible destruction des perspectives de normalisation des relations avec la Russie. De Paris à Berlin, en passant par Bruxelles, l'initiative de la Chambre des représentants passe très mal.
Le président Donald Trump a repris ses attaques publiques contre son ministre de la Justice, Jeff Sessions, la quatrième fois en une semaine, lui reprochant cette fois de ne pas avoir limogé le directeur par intérim de la police fédérale. Depuis le 19 juillet, quand M. Trump a désavoué l'ancien sénateur, un fidèle de la première heure dans la conquête de la Maison-Blanche, les attaques publiques sur Twitter et ailleurs se sont multipliées. Le président reproche notamment à M. Sessions de s'être récusé dans l'enquête sur l'ingérence présumée de Moscou dans l'élection américaine. Les États-Unis ont imposé des sanctions contre 13 actuels et anciens hauts responsables gouvernementaux du Venezuela, quelques jours avant l'élection d'une assemblée constituante voulue par le président Nicolas Maduro, a annoncé le Trésor américain. L'organisme du Trésor chargé de prendre des sanctions a annoncé dans un communiqué des mesures punitives contre des responsables du gouvernement vénézuélien et d'autres qui sapent la démocratie dans ce pays secoué par une grave crise politique et des manifestations violentes. La situation restait tendue ce mercredi entre Israéliens et Palestiniens autour de l'esplanade des mosquées à Jérusalem, malgré le retrait de détecteurs de métaux. Les fidèles musulmans refusaient toujours d'entrer sur l'esplanade et priaient dans les rues adjacentes, comme ils le font depuis plus d'une dizaine de jours. La tension est montée brusquement autour de ce site après l'installation le 16 juillet par l'État hébreu de détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade. Le président américain Donald Trump a annoncé que les personnes transgenres ne pourront pas servir dans l'armée américaine, donnant ainsi une victoire à l'aile conservatrice du Parti républicain. Les corps de 25 personnes, dont 17 d'une même famille, ont été retrouvés lors du reflux des eaux qui ont inondé leur village dans l'état de Gujarat en Inde, où les pluies torrentielles ont fait 120 morts. Les inondations dans cet état ont entraîné l'évacuation de plus de 36 000 personnes, alors que hélicoptères et bateaux tentaient d'atteindre les populations isolées. Et l'État américain de l'Ohio a exécuté ce mercredi un prisonnier condamné pour le viol et le meurtre d'une fillette. Ronald Phillips, 43 ans, a été déclaré mort à 10h43, ont indiqué les autorités de l'État. Ronald Phillips avait 19 ans en 1993 lorsqu'il a été condamné pour le viol et le meurtre de Sheila Marie Evans, 3 ans, qui était la fille de sa petite amie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eki Abadou.
C'est désormais officiel, un port va exister à Kribi au Cameroun. Bolloré, le transporteur CMA et le groupe chinois de BTP viennent de signer avec l'État camerounais les contrats de concession du terminal à conteneurs du port aux eaux profondes de Kribi. L'exploitation leur a été attribuée pour 25 ans en août 2015. Une bonne nouvelle pour les habitants de Kita, situé entre Kaï et Bamako. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Malik Ouleseini Maïga, a signé samedi dernier à Paris un accord de financement pour la réalisation d'une centrale solaire pour un coût total de plus de 50 milliards de francs CFA. Ce projet constitue un nouveau coup d'accélérateur au programme d'urgence sociale. Les entreprises chinoises présentes en Côte d'Ivoire ont désormais une chambre de commerce pour favoriser les échanges et les contrats avec les organismes ivoiriens et renforcer la coopération économique et commerciale sino-ivoirienne.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
On commence par les Jeux de la francophonie à Abidjan.
Oui, la compétition se poursuit au stade Félix Houphouët-Boigny en athlétisme. La malienne Jenny Boudante remporte le 400 mètres, le temps 52 secondes et 23 centièmes. La Burkinabé Marthe Koala remporte le concours du saut en longueur avec un saut à 6,52 m devant la Camerounaise Marlene Gongoa, deuxième avec un saut à 6,34 m. Médaille d'argent pour la malienne Kenefing Traoré au concours féminin de lancer du javelot, un jet à 49,85 m. Et puis les quarts de finale du tournoi de basket féminin, les Maliennes éliminées par les Québécoises, 60 à 80. La gifle pour la Guinée battue 24 à 93 par la Wallonie. Le Cameroun domine le Bénin, 63 à 38. À suivre dans la soirée, Sénégal Côte d'Ivoire. En football, le Sénégal en tête de son groupe après sa nette victoire 3-0 contre le Gabon. En judo, l'Ivoirienne Zouléa Abzeta Dabone en finale des moins de 57 kilos. Sa compatriote Fatim Fofana a chuté lors des demi-finale chez les moins de 70 kilos, tout comme la Burkinabé Aguiratou Kabore. Le Camerounais Frank Belinjingbel tombe sur Hippon en demi-finale des moins de 80 kilos chez les hommes.
Transfert en football.
Le Stade Rennais a officialisé l'arrivée d'Ismaïla Sarr en provenance de Metz. À 19 ans, l'attaquant international sénégalais a signé un contrat de 4 ans en faveur des Rouges et Noirs. On parle d'un transfert de 17 millions d'euros hors bonus. Quant au vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vassiliev, il a indiqué n'avoir conclu aucun accord, ni avec le Real Madrid, ni avec aucun club. En ce qui concerne le transfert de Kylian Mbappé, c'est l'autre feuilleton de l'été avec Neymar. Il souhaite prolonger le contrat de Mbappé.
Les coups durs en tennis pour Djokovic.
Novak Djokovic a annoncé à Belgrade qu'il mettait un terme à sa saison en raison d'une blessure persistante à un coude. Dans une déclaration diffusée sur son compte Facebook, le tennisman a expliqué avoir pris cette décision de ne plus jouer aucune compétition ni aucun tournoi jusqu'à la fin de cette saison 2017. Âgé de 30 ans, Djokovic, numéro 4 mondial, ne participera donc pas à l'US Open à la fin de l'été ni à la demi-finale de Coupe Davis contre la France. Ce sera mi-septembre.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Washington Forum cette semaine, la CDAO et son objectif de 3 enfants maximum par femme d'ici 2030. Les parlementaires de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, de la Mauritanie et du Tchad veulent faire baisser de moitié le taux de fécondité le plus élevé au monde. Pourquoi un tel projet? Quels enjeux économiques et sociaux? À l'horizon 2050, un continent en majorité composé de jeunes, quel avenir pour eux? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et je vous donne rendez-vous ce jeudi à 20h temps universel avec Tatiana Mosseu et ses invités.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. En Centrafrique, deux soldats du contingent marocain de la MINUSCA ont été tués mardi à Bangassou, dans le sud-est du pays, dans une embuscade tendue par les groupes d'autodéfense assimilés aux milices anti-Balaka. Cette nouvelle perte intervient deux jours après celle d'un autre casque bleu marocain dans la ville. Selon le député de Bangassou, Fidel Abouka, cette escalade de la violence qui perdure dans la région n'est pas un conflit interreligieux. Le voici au micro de Félix Yepassi Zembrou.
La réalité est que ce conflit qui tend à perdurer, on essaie de le faire glisser sous l'étiquette d'un conflit interconfessionnel, alors qu'il n'en est pas question. Pourquoi ? Parce que les centrafricains, aussi bien chrétiens que musulmans, qui ont fui Bangassou, qui sont maintenant de l'autre côté du fleuve, ils se battent pas entre eux. Aussi bien même à Boba, ceux qui ont traversé, ils sont ensemble, ils participent ensemble. Ça veut dire que ce n'est pas un conflit entre chrétiens et musulmans, mais il y a une mainmise entre ces gens qui tendent à faire montrer qu'il y a un problème intérieur. Quand je dis que c'est une instrumentalisation de la vie.
Qui sont exactement ces groupes d'autodéfense? On dit qu'il s'agit des anti-Balaka. Est-ce que c'est exact, cette information?
Quand on dit anti-Balaka, c'est un terme générique. Centrafricains ou groupes de centrafricains prennent les armes pour une cause, pour une raison, on les appelle anti-Balaka. Mais eux-mêmes, ils se disent autodéfense. Ici, il y a une certaine force que l'État ne peut plus contrôler.
Mais qu'en est-il des éléments de l'UPC d'Ali Daras qui sévissent aussi actuellement dans la région?
Vous avez raison. C'est que le problème de Bangassou est particulier. C'est les autodéfenses. Mais quand vous sautez en amont et que vous allez vers Zébio, vers Mboki, là-bas, c'est l'UPC. Dans la Basse-Côte, c'est le chef. Le cas de la Basse-Côte, c'est effectivement ce qu'on appelle des gens qui se reconnaissent comme les anti-Balaka, qui sont en train d'opposer contre l'UPC qui s'est affiché et qui règne en fait. Un seul exemple. Petite île qui s'appelle Congo à Alitao. Le chef du groupe qui s'appelle Azou et son fils ont refusé d'aller à leur rassemblement. Ils l'ont exécuté publiquement à Congo avant-hier.
Comment vit la population du Mbomo à l'heure actuelle?
En majorité, ils ont tous traversé. Ou bien ils sont dans la brousse, ou bien ils sont de l'autre côté du feu. Parce que le contingent marocain qui est là-bas, eux, quand ils passent, ils tirent. Ils font des sommations inutiles. Et à chaque fois, la population est apeurée. Ce qui fait que maintenant, les gens préfèrent être le plus loin possible.
Fidel Aboukar est le député de Bangassou en Centrafrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République Centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Tchad, le léger remaniement gouvernemental de mardi s'est notamment traduit par le départ du ministre de la fonction publique, de l'emploi et du dialogue social, Abdelkarim Seyd Bouch, qui a été remplacé par Mahamat Hadef. Selon M. Bouch, la plateforme intersyndicale avait quitté le comité tripartite de négociation car elle estime que ses préoccupations sur la situation sociale ne sont pas prises en compte par le gouvernement. Timothée Donangmaï a joint N'Djamena Younous Mahadjir, vice-président de l'Union des syndicats du Tchad.
Le Premier ministre avec son président ont décidé de changer leur ministre et on ne connaît pas pourquoi, mais pour nous, le ministre de la fonction publique, M. Bouch, est comme tous les autres ministres au Tchad. Il n'a aucun pouvoir. Il est parti. Un autre qui viendra, ça sera la même chose. Et on pense que pour lui, il n'y a pas d'impact là. Qu'il parte ou qu'il reste, c'est la même chose.
Quelle est la cause de votre départ?
Bon, la cause de notre départ, c'est parce que le gouvernement n'a pas tenu compte de notre avis en tant que partenaire social, en conclave dans le dialogue social. Et pendant que nous sommes en conclave, le gouvernement, le versement des salaires par rapport aux effets financiers sur les avancements des fonctionnaires et également sur les frais de transport qui devaient être payés pour les travailleurs. Ça ne devait pas se faire comme ça pendant qu'on dialogue, il faut respecter l'autre. Et il fallait plutôt nous informer et essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire.
Quels sont les principaux problèmes sociaux de l'heure au Tchad?
Nous avons ce problème des travailleurs qui ont été victimes d'amputation d'une grande partie de leur salaire, de leur indemnité, et de ce que je viens de dire également. Et il y a un problème, effectivement, où toutes les administrations ne marchent presque pas parce qu'il n'y a pas d'argent, ou plutôt que l'argent a été orienté ailleurs par les principaux acteurs, le Premier ministre et le Président de la République. Alors donc, lorsqu'il n'y a pas d'argent, les administrations ne marchent pas, l'économie est bloquée. Alors, tout cela fait qu'on sent qu'il y a un arrêt total du fonctionnement du Tchad.
Le gouvernement dit qu'il manque de ressources du fait de la chute des prix du pétrole brut. Qu'en dites-vous?
Non, mais ça, c'est des raisons qu'ils veulent trouver. La chute du pétrole, ça, c'est général. Il y a beaucoup d'autres pays aussi qui ont la même situation. Mais et les autres recettes, où est-ce qu'ils sont? Pourquoi le gouvernement n'organise pas que les autres recettes rentrent bien? Il ne veut pas. Alors là, je pense bien que ce n'est pas ça, seulement. C'est vrai qu'il y a une réduction des puits de pétrole, mais il y a d'autres puits qui ont été trouvés, et donc il y a assez d'argent qui devait venir.
Younous Mahadjir, vice-président de l'Union des syndicats du Tchad, était joint à N'Djamena.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Huitième jeu de la francophonie à Abidjan. Comme tout le monde, les artistes maliens sont entrés dans la compétition, notamment dans la section musique. Ils ont également présenté des marionnettes géantes et des contes. Les Maliens qui ne désespèrent pas n'auront pas de médaille en compte car le jeune conteur Salif Berthe a été éliminé. Kassim Traoré nous en dit plus sur la participation du Mali dans les disciplines culturelles.
Les jeunes artistes maliens sont à Abidjan pour participer au 8e jeu de la francophonie, venus pour remporter des médailles. La compagnie Nama, dirigée par Yakuba Magasuba, est dans la compétition avec ses marionnettes géantes.
On veut montrer la population l'amitié, on se donne les mains. L'Afrique est dispersée. Vraiment, nous, on veut, le monde même est dispersé, on veut que tout le monde se donne, blanc, noir, on donne les mains pour pouvoir avancer. C'est pour ça qu'on dit, on a dit l'amitié. L'amitié, c'est tout le monde.
Sur la scène, les défenseurs de la culture malienne à ces jeux de la francophonie ont montré des valeurs de la société malienne. Boukari Omotimbe, comédien.
Moi, ça commence par les ethnies d'abord. Les Dogons, après les Dogons, il y a les Sénoufou, après Sénoufou, les Bambara et les Sorey. Donc toutes ces ethnies, malgré leurs différences, se trouvent autour d'une même table. Les liens qui existent entre ces ethnies, voulu garder ces liens-là, c'est l'une des valeurs fortes même pour la cohésion sociale au Mali.
Salif Berthe, l'oiseau conteur, était sur la scène au palais de la culture pour la compétition dans la discipline conte et conteur. Son spectacle a porté sur la vérité.
Ce thème parce que je me suis rendu compte que la vérité, c'est la seule chose qui peut changer ce monde.
Pour le moment, le Mali n'a eu aucune médaille dans les disciplines culturelles. Au même moment, le Sénégal, qui a connu un début difficile, se redresse. Alioune Diop, opérateur culturel sénégalais.
On était un peu dessus au tout début, puisque d'entrée de jeu, pour la jonglerie avec le ballon, la création numérique et le développement durable, on a été aussitôt éliminé. Au moment où je vous parle, on savoure notre première médaille. C'est la première médaille du Sénégal, une médaille de bronze obtenue par Mohamed Bogar Sarr pour le concours de nouvelles. Et pourquoi c'est une joie immense? Dans l'histoire des jeux de la francophonie concernant la création artistique, c'est la première fois que le Sénégal gagne une médaille. On garde espoir pour la danse en attendant les résultats de demain.
Les artistes plasticiens maliens sont toujours dans l'attente de leurs œuvres, qui sont partout, sauf là où elles devraient être. Il s'agit de Mariam Ibrahim Maïga, artiste peintre, Moussa Kalapo, artiste photographe, et Elie Di Apilou Koudjou, sculpteur et installation. Et personne n'arrive à dire où sont passées les œuvres de ces jeunes talents maliens, alors que les œuvres ont été expédiées par DHL sur Abidjan depuis le 18 mai 2017. Abidjan, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Les personnes de plus de 65 ans aux États-Unis sont de plus en plus nombreuses. Et cette tranche de la population connaît également une augmentation des résidents nés à l'étranger. Dans des villes telles que New York, les projections montrent que les immigrés seront majoritaires parmi les seniors en 2020. Et les services dédiés aux personnes âgées auront du mal à suivre. Anastasie Tudiesh nous en dit plus.
Au centre d'ESI pour personnes âgées, les Bangladeshis du troisième âge peuvent faire des rencontres, prier, manger halal et faire du sport trois fois par semaine. Les Bangladeshis font partie de la vague la plus récente d'immigration aux États-Unis et pour eux, la langue peut être une barrière, en particulier pour les plus âgés. Jahan Arar Amin est originaire du Bangladesh.
À mon arrivée ici, je ne connaissais pas un mot d'anglais, même maintenant. Je vais me coucher en me demandant comment je vais bien pouvoir communiquer le lendemain.
Christian González Rivera est chercheur au Centre pour un avenir urbain. Pour lui, l'isolement est le lot commun des personnes âgées migrantes, en particulier si les services culturels et leur langue d'origine sont rares.
On rencontre souvent des personnes âgées qui se sentent isolées parce que leurs petits-enfants ne parlent pas leur langue. Ils se retrouvent plongés dans une culture éloignée de la leur. Et leur rôle d'aîné ici, aux États-Unis, est différent de celui qu'il était dans leur pays d'origine.
La Maison Inde est une association laïque. Elle gère le foyer de personnes âgées et propose des programmes de lutte contre l'isolement sous toutes ses formes. Les doyens vivent en famille et une bonne partie n'a droit ni à la sécurité sociale ni aux allocations fédérales. Dilafroz Nargis Ahmed est directeur du centre d'ESI.
Nos compatriotes sont plus conservateurs, religieux et très familles, alors ils veulent être en famille. Mais c'est très difficile de vivre avec la famille de nos jours parce que leurs enfants qui les ont amenés au foyer sont eux-mêmes sous le seuil de pauvreté.
Mais l'isolement social est aussi chose commune parmi ceux qui sont là depuis fort longtemps, comme les chats, arrivés d'Inde il y a 25 ans et maintenant citoyens américains. Pour Bharat Shah, participer aux cours donnés au foyer, puis enseigner, ont aidé à lui donner confiance.
Il faut se développer, apprendre à parler, à bien se comporter, les occuper, trouver ce qui marche et comment les divertir. Ça vous donne l'occasion de montrer votre talent aux autres.
Les Shah ajoutent que pour rester heureux, il faut être en bonne santé et rester occupé.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. C'est au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Seigneur, ayez pitié de...
Fin de cette édition, à la mise en onde, c'était Sims Loumami, à la console Alfredo, à la présentation Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry,
92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.